Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.
Vers vous j'élève mon âme, Seigneur mon Dieu, en vous je me confie que je ne sois pas confondu. Mes très chers frères, nous voici déjà arrivés au deuxième dimanche de carême. Avons-nous tiré profit de ce saint temps de pénitence jusqu'à présent? Nous ne faisons que commencer, donc il faut bien commencer. Et si nous avons un peu mal commencé, eh bien il faut reprendre. Il y a encore plein de temps pour reprendre des bonnes habitudes. Est-ce que nous passons le jeûne et l'abstinence jour après jour pour l'amour de Dieu, ou est-ce que nous le faisons pour une autre raison? On peut aussi estimer faire un bon carême et en fait faire quelque chose de thérapeutique ou je ne sais pas de quoi, mais pas pour l'amour de Dieu. Le dimanche est un jour de relâche, nous ne faisons ni jeûne ni abstinence. C'est un jour de relâche où nous pouvons faire le bilan de la semaine écoulée, puisque le dimanche est le premier jour de la semaine qui suit. Sommes-nous aujourd'hui dans le remords et la confusion? Si c'est le cas, mes très chers frères, alors ces paroles que nous avons citées, tirées de l'introïte, sont pour nous. Seigneur, venez à mon secours, que je ne sois pas confondu. L'Église nous enseigne aujourd'hui de manière à ce que nous persévérions et que nous soyons puissamment encouragés. Nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit, spécialement dans l'Épître de Saint Paul cette année-ci. Nous dirons quelque chose du caractère divin de la doctrine apostolique et nous montrerons qu'elle ne peut être ni réformée ni mitigée. Dans un deuxième point, nous parlerons de la volonté de Dieu dont parle saint Paul, la volonté de Dieu que nous enseigne la doctrine apostolique, c'est-à-dire la sainteté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et nous verrons les trois exemples que donne saint Paul pour illustrer son propos. Et nous terminerons brièvement dans un troisième point en évoquant la raison pour laquelle Dieu se venge des chrétiens qui ne sont pas saints. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit saint Paul dans la première aux Thessaloniciens. Mes frères, nous vous demandons et nous vous conjurons dans le Seigneur Jésus, qu'ayant appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, vous marchez ainsi de manière à progresser de plus en plus. Vous remarquez, mes très chers frères, le ton pressant de l'apôtre. Il nous demande et il nous conjure. Rogamus vos et obsecramus in domino Iesu. Il nous conjure pour l'amour de notre Seigneur de l'écouter. Et si nous l'écoutons, il nous demande que, avant tout, nous qui avons appris quelque chose de lui, nous le mettions en pratique. Il y a beaucoup à dire sur cette simple phrase qui pourrait passer relativement inaperçue, puisque nous avons tendance à considérer toujours le début de l'épître comme étant une introduction pour ce qui va être dit, et dans un sens c'est vrai, mais justement l'introduction est très importante. Nous vous demandons, nous vous conjurons dans le Seigneur Jésus, qu'ayant appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. Un peu plus loin, il dira, vous savez en effet quel précepte je vous ai donné de la part du Seigneur Jésus. Nous avons fait allusion, il y a quelque temps, à cette phrase apologétique qu'on dit assez facilement, et pas forcément à tort, aux protestants. Les protestants disent, nous ne connaissons que la Bible, nous ne reconnaissons d'autorité que la Bible. Et nous disons, il faut la tradition. Et souvent, on dit aux protestants qu'ils ont l'écriture, mais ils n'ont pas la clé de l'écriture, puisque, de fait, beaucoup d'entre eux interprètent la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, de telle sorte que il y a plusieurs tendances, même si aujourd'hui tout a tendance à se mélanger, mais disons qu'il se trouve que personne ne sait exactement ce qu'il faut croire. Maintenant, nous leur disons parfois, ou les catholiques leur disent parfois, la parole de Dieu, la Bible, n'est pas la règle de notre foi, ni de notre morale, il nous faut la tradition. Et comme nous disions la dernière fois, l'Écriture sainte est la tradition. Elle est la tradition écrite, et la tradition orale n'est pas quelque chose qui s'ajoute à l'Écriture sainte. La tradition orale est le commentaire autorisé de l'Écriture sainte, ce qui n'est pas peu, ce qui est absolument nécessaire. C'est comme avoir un coffre-fort rempli de trésors sans la clé. Il nous faut la clé. La clé, c'est la tradition orale et l'enseignement de l'Église qui, infailliblement, nous donne, tire de son trésor des choses anciennes et nouvelles, c'est-à-dire anciennes, c'est-à-dire ce que nous a enseigné notre Seigneur, et nouvelles dans le sens d'explication. Elle n'invente rien, malheur à celui qui oserait ajouter quoi que ce soit à l'Écriture sainte, puisque l'Écriture sainte se termine, dans les derniers versets de l'Apocalypse, ça se termine par une très puissante malédiction contre quiconque retrancherait ou augmenterait ou ajouterait à ce livre. L'Écriture sainte est véritablement la règle de notre foi, l'Écriture sainte, et spécialement l'Évangile, est la règle de notre morale. Donc que cela soit très clair. Maintenant, il se trouve que à cette tradition écrite, nous devons nécessairement avoir la tradition orale qui nous garantit que nous comprenons bien la tradition écrite. Voilà comment il faut comprendre les choses. J'entendais, ou je le disais récemment, je ne sais plus trop où, une apologétique contre les protestants qui disait le Nouveau Testament ne peut pas être la règle de notre foi et de notre morale parce que au temps des apôtres, on n'avait pas le Nouveau Testament, les apôtres enseignaient, et ensuite, donc ça signifie que ce que les premiers chrétiens n'avaient pas, nous non plus, c'est d'une certaine manière, alors on comprend où ça veut en venir, mais c'est extrêmement maladroit, je dirais même c'est complètement idiot. Le contenu de l'Écriture sainte, spécialement du Nouveau Testament, c'est exactement ce que les apôtres enseignaient. Donc, les chrétiens n'avaient pas forcément, dans l'immédiat, dans les premières années, forcément, parce que très rapidement, ils ont eu les épîtres et les évangiles, mais ils n'avaient peut-être pas, dans les premières années, les rapports écrits des enseignements des apôtres, mais ils avaient le contenu de ce que nous avons par écrit, ils l'avaient par oral. Les apôtres leur transmettaient ce qui deviendrait la tradition écrite. Il leur transmettrait aussi ce qui deviendrait la tradition orale, c'est-à-dire la compréhension de ce qui a été fixé par écrit. Mais il se trouve donc que non seulement nous avons exactement la même chose que les apôtres, mais il faut ajouter à ceci l'impression que les modernes, et seuls les modernes, peuvent avoir que nous sommes mieux munis que les premiers chrétiens, que nous avons plus de matière, que nous avons plus de tradition que les premiers chrétiens, est une illusion d'optique terrible. Exactement comme si l'étudiant ou l'enfant qui verrait son père dans l'atelier en train de travailler, ou son maître dans l'atelier en train de faire avec aisance les choses qu'il sait faire, les choses qu'il doit faire, les axes de son métier, cet étudiant ou cet enfant se ferait expliquer les choses et se dirait « je suis plus savant que mon maître » parce que j'ai les explications. Le maître agit. Les chrétiens des premiers temps, les apôtres, et ensuite les chrétiens des premiers temps, avaient la parole apostolique dans son plein, c'est-à-dire on est en amont de la tradition écrite et de la tradition orale, et nous, parce que nous sommes devenus lents d'entendement, parce que nous sommes devenus complètement stupides, parce que nous sommes gangrenés par notre concupiscence et notre désir de composer avec le monde, parce que nous avons une oreille qui se prête assez facilement à écouter toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de déviances, etc., l'Église a dû nous doter d'un immense appareil d'explications, de réfutations, de corroboration, etc., des paroles apostoliques, n'imaginons pas, mes très chers frères, que nous sommes plus riches que les premiers chrétiens. Nous sommes plus idiots, plus méchants que les premiers chrétiens. Donc, puisque nous sommes plus faibles, plus idiots, plus imbéciles, plus stupides, nous avons besoin d'une infinité de béquilles. Un peu comme un paralytique auquel on mettrait un exosquelette pour l'aider à se mouvoir, on va pas dire « oh là là, quel surhomme !» On va dire « pauvre homme, il a besoin de tout cela !» Mon Dieu, aidez-le ! Son corps est tellement faible qu'il a besoin d'avoir un autre corps, en quelque sorte, pour pouvoir se mouvoir, et avoir des ordinateurs, des choses simples qui l'aident, que Dieu aide les gens qui sont dans cette situation abominable. On va pas dire « c'est un homme qui est plus puissant qu'un homme qui est simplement en bonne santé » et dont tous les membres fonctionnent. C'est le premier qui est admirable. Donc voyez-vous, mes très chers, faisons très attention. Nous vivons vers la fin des temps, nous vivons vers la fin du monde, nous vivons 2000 ans après les apôtres, nous sommes devenus parfaitement stupides et nous avons besoin que la tradition orale se démultiplie les explications. Nous ne sommes pas plus riches, nous sommes plus idiots. Donc, si nous disons cela, c'est pour prendre toute la mesure de ce que dit saint Paul, ayant appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. Vous savez en effet quel précepte je vous ai donné de la part du Seigneur Jésus. Saint Paul ne nous demande pas une continuité de façade, une conformité de façade à la loi de Dieu, mais une adhésion de cœur. Que nous dit-il ? Ne soyez pas ennemis de vos âmes, ne soyez pas les bourreaux de vos âmes en ignorant volontairement ce que je vous ai appris de la part de notre Seigneur. L'obéissance du chrétien, voyez-vous mes très chers frères, a pour but le salut de son âme, c'est-à-dire la foi opérant par la charité produit mérite le salut, sachant que ce salut, notre Seigneur nous l'a mérité en amont et c'est grâce à ses mérites que nous travaillons avec crainte et tremblement, comme dit saint Paul, à notre salut. Tout ce qui n'est pas méritoire est perdu pour la vie éternelle. Ou disons plutôt, mes très chers frères, car il y a vie éternelle et vie éternelle, il y a méritoire et il y a mérite et mérite. Tout ce qui n'est pas fait par la foi opérant par la charité, non seulement ne mérite pas pour la vie éternelle, mais positivement mérite pour l'enfer éternel. Car quand on ne fait pas le bien, on fait le mal. Quand on ne fait pas le bien pour l'amour de Dieu, on fait le bien pour l'amour de soi-même ou pour quelque autre objet de notre amour, de notre passion qui n'est pas Dieu, et nous méritons de ne pas avoir ce pourquoi nous n'avons pas agi en aimant. C'est-à-dire, nous méritons d'avoir le châtiment éternel. Voyez-vous, mes très chers, nous méritons, tous les actes, d'une certaine manière, sont méritoires. Certains méritent la vie éternelle, d'autres la mort éternelle. Mais on dit, d'une façon générale, quand ils méritoires dans le sens de la vie éternelle. Nous sommes faits pour Dieu avant d'être faits pour le prochain. Donc, nous devons aimer le prochain comme une vérification de notre amour, de notre charité pour Dieu, vis-à-vis de Dieu. Saint Paul nous dit qu'ayant appris de nous, et vous savez quel précepte. Nous revenons donc à cet enseignement apostolique dont nous avons dit un mot déjà. L'enseignement apostolique est consigné dans le Nouveau Testament. La tradition orale n'y ajoute rien, je pense que vous avez compris. Maintenant, elle l'explique, elle le rend plus clair pour les esprits obscurcis que nous sommes. Le Nouveau Testament est donc notre règle de vie. Tout y est écrit pour notre instruction, comme dans l'Ancien Testament aussi, bien entendu, nous ne séparons pas l'Ancien du Nouveau, mais nous parlons plutôt du Nouveau en tant que maxime de l'Évangile et en tant qu'accomplissement de l'Ancien. Le Nouveau Testament est notre règle de vie. Elle est pour notre instruction et notre salut. Le Nouveau Testament, les règles que nous donnent, les maximes de l'Évangile que nous trouvons dans le Nouveau Testament, on ne les dépasse jamais. On ne les réforme jamais, on ne les abroge jamais, on ne les mitige jamais. Un auteur nous dit « Les règles de la tradition apostolique sont des règles divines parce que les apôtres n'ont donné que ce qu'ils ont reçu de notre Seigneur. » Voyez-vous, mes très chers frères, les maximes de l'Évangile ne sont ni abrogeables, ni relativisables, si j'ose le mot. Ceux qui ne s'y conforment pas ne peuvent être sauvés. Alors vous allez dire, oui, mais justement, au fil des siècles, on s'est perfectionné dans notre système de théologie morale et tout ce qu'on trouve dans les évangiles, dans les apôtres, c'est un peu brut de décoffrage, comme on dit, c'est un peu archaïque, c'est un peu comme une sorte d'idéal. Et ensuite l'Église, dans son immense génie, spécialement gréco-latin, a mis en forme, afin que nous puissions ces choses-là, afin que nous puissions les pratiquer d'une façon réaliste. Tendre l'autre joue, etc. Tout ceci est un peu halluciné, et sinon hallucinant. Vous voyez, donc, heureusement qu'il y a l'Église, heureusement qu'il y a la tradition orale, sinon nous serions comme les protestants qui suivent l'Évangile. Si seulement les protestants suivaient l'Évangile, ça les rapprocherait un peu plus de la vérité. La réalité, c'est que c'est totalement faux, et chacun n'en fait qu'à sa tête. Comme les catholiques. Comme les néo-catholiques, ça c'est évident, mais aussi, malheureusement, mes très chers frères, comme bien souvent nous-mêmes, et moi le premier, malheureusement. Voyez-vous, le Nouveau Testament est notre règle de vie. Ne pas lui obéir, c'est mériter le châtiment éternel. Alors vous allez dire, est-ce que ce n'est pas un peu radical ce que vous dites ? C'est saint Paul qui le dit. Mes frères, nous vous demandons et nous vous conjurons dans le Seigneur qu'ayant appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, vous marchez ainsi. Ça signifie, mes très chers frères, que le chrétien qui ne pratique pas quotidiennement, parce que quelle pratique n'est pas quotidienne quand il s'agit de morale, qui ne pratique pas quotidiennement les maximes de l'Évangile, ne peut pas être sauvé. Je me l'applique à moi en premier, bien entendu. C'est le carême, c'est le moment où l'on parle violemment, fortement, avec robustesse aux chrétiens. C'est pas qu'on les dorlote dans le reste de l'année, mais le reste de l'année, on parle un peu d'autre chose. Et puis, nous sommes dans un temps de pénitence. Que faisons-nous de notre vie ? Nous n'en faisons rien, et nous méritons pour l'enfer éternel si nous ne vivons pas conformément aux préceptes de l'Évangile. La doctrine morale qui est la nôtre est l'enseignement de la manière concrète d'aimer et de glorifier Dieu. Et cet enseignement est le grand scandale des mauvais chrétiens. Notre morale est une morale divine. Et comprenez bien, nous ne disons pas divin comme Kant pouvait dire divin, c'est-à-dire idéal, idéaliste, dans les nuages, dans les étoiles. Notre morale est une morale divine. Notre Père, c'est Dieu par le baptême en notre Seigneur Jésus-Christ. Son enseignement, qu'il nous a donné par notre Seigneur Jésus, le Messie, est un enseignement, et le seul enseignement qui vienne de lui. Et un commentateur nous dit que la morale que nous enseigne le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Écriture sainte tout entière, parce qu'il ne faut pas dissocier de l'Ancien et le Nouveau Testament, mais disons, vous comprenez ce que je veux dire, elle n'est pas faite pour flatter les hommes, mais pour les mettre en état de plaire à Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu par le baptême, cela signifie qu'avant d'être enfants de Dieu, nous n'étions pas enfants de Dieu. Donc tous les hommes ne sont pas les enfants de leur Créateur, mais ils en sont les créatures. Et ils sont moins que jamais les enfants de leur Créateur parce qu'ils sont déchus. Avant, autrefois, on pouvait dire que Adam était fils de Dieu, comme il est écrit dans une des généalogies de notre Seigneur. C'est vrai, parce que l'homme innocent est en quelque sorte fils des mains de Dieu. Il est à l'image de Dieu, il est l'image de Dieu, il est dans un état d'innocence. Nous ne le sommes plus. Avant le baptême, nous ne plaisons pas à Dieu. Nous sommes des enfants de colère, nous naissons tous enfants de colère, dignes de la damnation éternelle. Alors, vous voyez, les petits-enfants qui n'ont jamais péché sont-ils aussi des enfants de colère ? Ils sont des enfants de colère dignes de la damnation éternelle parce qu'ils portent en eux la marque, le péché originel. Péché originel dont la culpe, c'est-à-dire la culpabilité, est ôtée par le baptême et dont les vertus, spécialement théologales, qui sont infusées en nous par le baptême, commencent à en rectifier les méfaits. Nous naissons tous enfants de colère, ennemis de Dieu par nature. Ça signifie que dans la mesure où nous ne sommes plus ennemis de Dieu, enfants de colère, nous sommes enfants de Dieu, non pas pour faire n'importe quoi et vivre à notre guise, parce que nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre à notre guise, mais pour vivre selon Dieu de manière à lui plaire. Or, nous ne savons comment plaire à Dieu que par les maximes de l'Évangile. Alors vous allez dire, les maximes de l'Évangile, il y en a un certain nombre qui recoupent une certaine sagesse même que l'homme naturel, que les philosophes, que même que les autres religions peuvent retrouver. Ça montre bien leur importance, effectivement. Maintenant, il se trouve que seuls les chrétiens peuvent pratiquer ces choses-là, et tout le reste qui ne se trouve pas dans les autres religions et dans le cerveau plus ou moins malade de l'homme naturel, seuls les chrétiens peuvent pratiquer ces choses. de manière à plaire à Dieu, c'est-à-dire de manière à cesser de lui déplaire. La religion chrétienne n'est donc pas faite pour flatter l'homme, mais pour le mettre en état de plaire à Dieu. Par comparaison, voyez-vous, mes très chers frères, l'islam, qui est une religion qui ressemble un peu au christianisme sous un certain rapport, l'islam corrige l'homme dans le cadre de sa nature. Il le flatte et il limite sa perversité, c'est vrai, effectivement, il y a une morale en islam, etc., je ne la nie pas, et elle est assez robuste, c'est vrai, effectivement, mais toujours dans le cadre de sa nature, sans jamais lui faire un devoir de se renoncer lui-même, sans jamais lui faire un devoir de s'unir à Dieu. Au contraire, c'est même là le péché par excellence, prétendre s'unir à Dieu. Et effectivement, on ne peut pas s'unir à Dieu n'importe comment, on le peut que dans le christianisme. Donc, voyez-vous, mes très chers, alors vous allez dire, oui, mais j'ai lu quelque part que les soufis disaient qu'il faut se renoncer, etc. Tout ceci, c'est une sorte de contamination chrétienne de l'islam. Il y a encore d'autres sources, bien sûr, mais c'est une sorte de contamination, évidemment. Le christianisme est tellement magnifique que, d'une certaine manière, quelques étincelles retombent un peu de l'autre côté de la Méditerranée et de l'Orient, et tous ces ariens, ces néo-ariens, prennent un petit peu pour mettre un peu de relief à leur religion. La réalité, mes très chers frères, c'est que cette religion flatte l'homme et organise en quelque sorte sa concupiscence. Tant mieux pour eux, nous ne condamnons pas. Si ça leur plaît, tant mieux pour eux, tant pis pour eux, ils iront en enfer, c'est leur affaire, ce n'est pas la nôtre. Il faut les évangéliser, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, mes très chers frères, pour nous qui, par la grâce de Dieu, sommes chrétiens, et non pas musulmans, Deo gratias, eh bien, notre religion n'est pas faite pour nous flatter, mais pour nous mettre en état de plaire à Dieu. Ayant appris de nous comment vous devez plaire, marcher et plaire à Dieu. Les maximes de l'Évangile nous enseignent la volonté de Dieu. Et quelle est-elle cette volonté? C'est notre deuxième point. Car la volonté de Dieu, c'est saint Paul qui le dit, est que vous soyez saints. Il y a, mes très chers frères, par-delà et en amont des diverses vocations, des états de vie, divers états de vie qu'on trouve au sein de l'Église, il y a une vocation générale à la sainteté qui règle chaque vocation particulière, chaque état particulier. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté, souvent, on s'imagine, encore une fois, je ne vous fais pas l'injure de le penser, mais sait-on jamais, et puis pour les autres qui n'étaient pas là les fois précédentes, voyez-vous, on s'imagine que la sainteté, c'est le fait de se tenir dans avec une tête plus ou moins évaporée, avec une couronne sur la tête, et puis au-dessus des autels, sur des petites corniches, etc. Bon, alors, c'est pas ça, là, ça c'est l'image, là, une représentation qu'il faut bien comprendre. Nous avons même besoin d'une certaine tradition pour comprendre et pas méconnaître ce que nous voyons dans les images saintes qui nous sont autorisées par l'Église. Mais la sainteté, c'est pas ça. Ça, c'est à la rigueur une image symbolique de la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est la séparation d'avec le monde. Sainteté, la sainteté, saint, sainteté signifie séparer. Qu'est-ce que le monde? Alors d'abord, cette séparation d'avec le monde est rendue possible par la grâce du Christ. Ce n'est que par la grâce du Christ que nous pouvons être saints. Ce n'est que la grâce du Christ qui, nous étant donnée, nous appelle à la sainteté. Et c'est la volonté de Dieu. Donc quand on n'est pas saint, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on est nécessairement dans la volonté propre. Et la volonté propre revêt une multitude de formes qui ont tout ceci en commun, qu'elles arrivent, ce tour de force, de mériter parfaitement l'enfer éternel. La sainteté, c'est la séparation d'avec le monde rendue possible par la grâce du Christ. Le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, si je me réfère à notre maître M. Bossuet, il dit le monde, et d'ailleurs qui est lui-même un disciple de saint Augustin, notre Saint-Père, c'est ceux qui s'aiment plus que Dieu. Le monde, c'est ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Le monde, c'est ceux qui méprisent les maximes de l'Évangile. Mais le monde, c'est aussi ceux qui les mitigent, qui les falsifient. Le monde, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, le monde a toujours existé, évidemment. Mais le monde au sens mondain, le monde a toujours existé. Aujourd'hui, quelle forme prend le monde? Alors, toutes celles-là, on les trouve malheureusement encore, et on les trouvera jusqu'à la fin du monde. Mais et bien sûr, maintenant, il se trouve que le monde, dans les milieux catholicoïdes, Quelle forme prend-il ? Il prend la forme de ces gens qui vous disent que les maximes de l'Évangile ne sont jamais que la version folklorique, moyen-orientale, pour ne pas dire juive, de la morale rationnelle d'Aristote. Et ce sont des gens qui, alors que nous appelons notre Seigneur notre Maître, il est notre Maître, Magister Noster, législateur et Magister Noster, ce que nous avons dit pendant l'Avent, vous vous souvenez, les grandes antiennes. Eh bien, on nous dit que c'est Aristote qui est le maître de ceux qui savent, ou de que sais-je. Enfin, ce sont des expressions qu'on trouve, évidemment, elles n'ont pas été inventées aujourd'hui. Aristote a l'air d'être le maître par excellence de la morale. Or, il faut savoir que le dieu d'Aristote, j'ai rien contre Aristote en tant qu'outil, d'une certaine manière, encore qu'on pourrait dire des choses, mais disons que, quel est le dieu d'Aristote ? Le dieu d'Aristote, c'est le premier moteur qui se désintéresse absolument de ce qui n'est même pas sa création, de ce qui est la matière coéternelle à lui et qui l'anime, dont il est le premier moteur. Qu'est-ce que l'homme d'Aristote ? C'est un animal raisonnable et sociable, ce qui est vraiment le minimum de ce qu'on peut dire quand on dit la vérité sur l'homme. C'est aussi un animal dont l'âme est mortelle, et dont le bonheur consiste à être vertueux. Sachant que l'homme d'Aristote, dont le bonheur consiste à être vertueux, doit être un homme libre, donc il ne s'agit pas des esclaves, et doit être un homme évidemment grec, tant qu'à faire, puisque c'est le centre de l'humanité, c'est la Grèce, pour Aristote. Donc vous voyez, ça fait quand même peu de choses. Alors on se moque des révolutionnaires qui se rêvaient romains de la grande époque, et on disait romains et démocrates comme à Athènes. Le vicomte de Bonald et les contre-révolutionnaires leur disaient oui, mais pour être dans l'état des Romains, il faudrait que vous ayez une armée d'esclaves qui travaillent pour vous et qui vous laissent du temps libre, tandis que vous êtes agriculteur, vous êtes ouvrier et autres, et en même temps vous voulez participer au bien commun, etc. Vous êtes des Romains d'opérette. Eh bien, je dirais, les catholiques qui se veulent aristotéliciens sont des aristotéliciens ou des Grecs d'opérette. Il leur manque un grand nombre de choses pour être dans cette situation de la morale de l'homme qui est concerné par la morale d'Aristote. Et quand bien même il le serait, il ne pourrait que mériter l'enfer éternel. Parce que toutes les vertus telles que Aristote les énonce, et je ne dis pas qu'il les énonce forcément mal, mais je dis toutes les vertus telles qu'Aristote les énonce, il les énonce en oubliant une chose qu'il ne pouvait pas connaître, c'était le Christ. Et parce qu'Aristote n'a pas connu le Christ, il est en enfer, comme tous les autres philosophes. Voyez-vous, mes très chers frères, quelles que soient ses qualités. Alors vous allez dire, c'est bien dur, c'est bien difficile. Ma foi, c'est notre religion. Rien ne vous empêche d'aller adorer Zeus, Athéna et autre chose, Diane, etc. Chose que l'on fait plus couramment qu'on peut l'imaginer, d'ailleurs. Mais et de vous damner. Mes très chers, je ne vous y invite pas. Au contraire, pour moi, en tant que successeur des apôtres, je dis, nous vous demandons et nous vous conjurons dans le Seigneur Jésus, qu'ayant appris de nos pères les apôtres, des saints apôtres dont les évêques tiennent leur pouvoir, comment vous devez marcher et plaire à Dieu, vous marchiez ainsi de manière à progresser de plus en plus. Voilà le discours de l'Église. Voyez-vous, la morale de l'Église n'est pas la version folklorique de la morale d'Aristote qui est mieux ordonnée. La morale de l'Église est la seule morale qui conduise au ciel, et accessoirement, elle est la seule morale qui fasse des hommes des êtres normaux. La sainteté habituelle a deux niveaux. Le niveau extérieur, qui est dans l'abstention de tout ce qui s'oppose aux maximes de l'Évangile, et le niveau intérieur. Les deux vont de pair. Le niveau intérieur qui consiste dans l'accomplissement des commandements jusqu'à la crucifixion inclusivement, jusqu'à la persécution, ça c'est pour l'homme, pour le vieil homme, jusqu'à la persécution pour l'amour de Dieu, pour l'homme extérieur, c'est-à-dire pour la créature totale. Crucifixion intérieurement, persécution extérieurement, voilà les limites inclusives de la morale du Christ. Un philosophe, fût-il aristotélicien, ou même mieux, stoïcien, ce qui est plutôt un platonicien, eh bien, très peu d'entre eux, ou aucun d'entre eux, n'est allé jusqu'à sacrifier sa vie pour sa morale. D'où cet aspect ignoble qu'on trouve chez les meilleurs philosophes, cet aspect ignoble des personnes qui disent parfois des choses justes, mais qui ne les font pas. Pourquoi ? Parce que un certain bon sens nous empêche de faire des choses, de tenir, de même des propositions vraies à notre détriment. Nous ne sommes pas païens, par la grâce de Dieu, donc revenons à saint Paul. La volonté de Dieu est que vous soyez saints. Comment être saint ? Comment être séparé ? Comment être séparé du monde ? Comment être séparé de ceux qui, peut-être au mieux, font le bien, mais en faisant le bien, méritent l'enfer éternel parce qu'ils ne le font pas par la foi opérant par la charité ? Saint Paul nous donne trois exemples ou trois amorces, en quelque sorte, de cette sainteté habituelle qui doit être la nôtre. La première, il nous dit « ut abstineatis vos a fornicationne », c'est-à-dire que vous vous absteniez de l'impureté. Que chacun de vous sache posséder le vase de son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et non en suivant les passions, les convoitises de la passion, c'est-à-dire des passions humaines, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Un auteur nous dit, et c'est un lieu commun, ce qui était le comble de la vertu pour les païens n'est que le premier degré de la pureté pour les chrétiens. Quand on voit un Platon, un Aristote parler de l'abstention, de toutes ces choses qu'on ne doit pas nommer, eh bien, on voit toujours que c'est une sorte d'idéal. Normalement, on fait ces choses-là parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de les faire. Mais c'est vrai que après un certain degré d'ascèse, une certaine élévation de l'âme, à un certain moment de la vie, effectivement, quand on est complètement cassé et brisé et qu'on n'arrive plus à rien faire, à un certain moment de la vie, peut-être qu'on peut s'en abstenir. Voilà la morale, voilà le summum de la morale des païens. Arriver à un moment, à s'abstenir, un moment, des choses qu'un chrétien ne doit pas nommer. Pour un chrétien, c'est le minimum. C'est le premier degré de la pureté. Car tout ceci consiste, mes très chers frères, dans la maîtrise de la concupiscence de la chair. Il y a trois concupiscences, et parmi lesquelles la concupiscence de la chair, et avec un sens aussi très bas. L'homme est devenu animal par la chute. Aristote, en décrivant l'homme comme un animal raisonnable et rationnel et un animal sociable, décrit quelque chose qui n'est pas faux, évidemment, mais décrit quelque chose qui est particulièrement vrai depuis la chute. L'homme est la créature de Dieu, le chef-d'œuvre de la création de Dieu, des créatures de Dieu. Il a été fait à son image et ressemblance. Il a été façonné, contrairement au reste de la création qui a été prononcée, il a été façonné par les mains mêmes de Dieu à partir de la poussière du sol. L'homme n'est un animal, en quelque sorte, le côté animal de l'homme n'apparaît que depuis la chute. C'est d'une façon accidentelle que nous avons des points communs avec les animaux. Et ça, c'est une tradition tellement commune que toutes les bribes de vérité qu'on peut trouver dans les fausses religions nous disent qu'à un certain moment, au commencement, l'homme n'était pas ce qu'il est actuellement, sauf dans certaines religions très dégénérées, etc. Voyez-vous, quand l'évolutionnisme nous dit que l'homme est un singe perfectionné, etc., en fait, dans le fond, il dit quelque chose de vrai, mais il le dit à l'envers. L'homme est devenu un singe, en quelque sorte, quelque chose qui ressemble assez à un singe. Il est devenu le cousin des singes depuis la chute. Il a commencé créature, image et ressemblance de Dieu. Il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a prévariqué, etc., nous savons, et il est devenu quelque chose qui a une ressemblance avec le singe. Voilà le vrai sens. Vous voyez, c'est pour ça que ce mensonge est une chose tenace, parce qu'il y a une vérité infime dans l'évolutionnisme. Oui, après la chute, l'homme est devenu quelque chose qui ressemble à un singe. Et alors, et encore, mes très chers frères, un animal très imparfait, un animal vil, un animal abject, un animal dénaturé. Il y a certains animaux qui sont cruels, qui sont abjects, qui ont des mœurs atroces, spécialement dans le fait de dans la manière de tuer leur ou de manger leur certains animaux abjects et vils qu'on considère naturellement abjects, ce sont des animaux qui mangent les autres animaux vivants. C'est pour ça que le psaume dit forte déglutis vivos déglutis et nos, ils nous auront c'est l'enfer, c'est le démon, dit notre père saint Augustin dans le commentaire de ce psaume, qui dévore vivants. Donc il y a, pour nous faire comprendre l'existence des démons et de l'enfer, il y a des animaux qui sont abjects. Mais en eux-mêmes, ils sont parfaits. Ils ont des mœurs qui correspondent à leur état. Ils nous font horreur à nous parce qu'il nous reste quelque chose de l'image de Dieu qui nous les fait considérer avec horreur. Mais d'une certaine manière, ils sont normaux. L'homme n'est pas normal. L'homme est un singe, l'homme déchu est un singe anormal. Les singes sont des animaux assez répugnants et assez vils, parce qu'ils ont une vague ressemblance avec l'homme et ils ont des mœurs qui sont souvent assez abjectes, mais il se trouve que, là encore, d'une certaine manière, ils suivent leur nature. L'homme, qui ressemble à un singe par un certain côté, est un singe dégénéré, un singe dénaturé. Si les bêtes lui ressemblaient, elles seraient absolument démoniaques et méprisables à cause de leur malice. Des fois, on dit que certains animaux sont un peu malicieux, mais au pire, c'est par une certaine imitation de l'homme. Certains tigres sont pleins de malice parce qu'ils vont et ils enlèvent les enfants, ils les mangent, etc. Effectivement, il y a un aspect malicieux. C'est pour cela que, à l'époque de Noé, Dieu a dit qu'il redemanderait aux animaux la vie des hommes qu'ils auront tués. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans qui ne nous regarde pas aujourd'hui. Mais il se trouve que si tous les animaux ressemblaient à cet animal déchu qu'est l'homme, eh bien, mes très chers frères, nous serions en train de vivre dans l'enfer. Parce que nous serions en compagnie de démons naturels, en quelque sorte. Ils ont quelque chose qu'on appelle l'instinct, et c'est ça qui, quelque vil et symboliquement méprisable qu'ils soient, ils sont normaux. Ce qui est l'instinct, l'équivalent de l'instinct des animaux chez l'homme, qu'est-ce que c'est ? C'est la charité. Et depuis la chute, il a perdu la charité, puisque la charité est étouffée, ou elle est ensevelie, elle est morte, en réalité, sous la prédominance de la concupiscence, qui en est le contraire. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, contrairement à l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Voyez-vous, mes très chers frères, saint Paul nous dit que vous vous absteniez de l'impureté. L'homme doit se maîtriser lui-même, et il ne peut se maîtriser que par la charité, c'est-à-dire en faisant primer sur sa concupiscence l'amour de Dieu qui soumet le corps à l'âme. C'est un esprit de verticalité, c'est une virilité spirituelle. Et j'en profite pour faire une petite comparaison, j'ouvre une petite parenthèse qui illustre ce que nous avons dit. Céder à son corps, c'est que ça soit d'une manière ou d'une autre, même très subtilement, comme céder à la gourmandise ou céder à la vanité, etc., nous en parlerons dans le deuxième exemple. Mais céder à son corps, c'est une forme de féminisme ontologique. C'est-à-dire qu'on accepte un état de fait où l'inférieur qui doit être dominé domine sur le supérieur qui doit être recteur de la chose. Se laisser dominer par son corps, c'est une sorte, je le dis pour tout le monde évidemment, c'est une sorte de féminisme ontologique. Et aujourd'hui, effectivement, curieusement, dans notre société, la société libérale, parce que la société moderne, c'est la société libérale, cette société n'est qu'une organisation de la tyrannie de l'inférieur sur le supérieur. Et comment pourrait-il en être autrement ? Puisque ce n'est que par la charité, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, par la verticalisation de l'être humain, par la virilité spirituelle, que l'on arrive à dompter cet animal rebelle, cet animal déchu, cette chose qui est si méprisable par un certain côté depuis la chute, qu'est la chair et toutes les parties inférieures de l'homme. Donc voyez-vous, mes très chers frères, la sainteté, évidemment, commence par la maîtrise du vase de notre corps, comme dit saint Paul. Mais ce n'est pas tout. C'est le premier degré, c'est la chose la plus grossière, et d'une certaine manière, c'est la chose la moins difficile à maîtriser, sachant qu'il y a après des choses beaucoup plus subtiles dans la chair, c'est-à-dire le vieil homme, qui émane de la chair et du vieil homme, et qui doivent être néanmoins maîtrisées. Ensuite, saint Paul dit ceci, et c'est un peu différent dans la Vulgate que dans le texte en latin qui traduit, en français qui traduit le grec. Alors je suivrai la Vulgate. Il dit donc, ut abstinensis, que vous abstiniez de ce qu'on ne doit pas nommer. Ensuite, nequis super gaudiatur, super grediatur, c'est-à-dire que personne ne s'élève, sous-entendu, vis-à-vis de son frère. C'est-à-dire que le fait d'avoir de la vanité, de l'orgueil, du mépris pour les frères, est absolument incompatible avec la sainteté. Il y a bien sûr un regard juste qui se pose sur les fautes, les péchés de ses frères, évidemment, et il y a aussi cette pratique sainte, quand elle est sainte et juste, de la correction fraternelle qui consiste à reprendre son frère dans le secret pendant longtemps, afin de lui montrer qu'il commet un péché ou qu'il a de mauvaises habitudes ou que sais-je, enfin, et de lui faire une correction fraternelle. Ça, c'est tout à fait juste. Mais quand on fait une correction fraternelle, quand on exerce la correction fraternelle, on ne s'élève pas au détriment. Au contraire, on voit plutôt des gens qui aiment, les vaniteux aiment bien être entouré de gens imparfaits, de pécheurs, afin de pouvoir briller au milieu d'eux en montrant, vous voyez, sans jamais les corriger, en montrant que eux sont meilleurs. Se glorifier aux dépens de ses frères est incompatible avec la sainteté. Vous voyez que c'est beaucoup plus subtil que la première chose que nous avons dite. La première chose que nous avons dite apparaît presque comme un jeu d'enfant par rapport à la deuxième. C'est beaucoup plus facile de maîtriser son corps que de maîtriser son âme et sa tendance à la vanité et au mépris des frères. Et la troisième chose dont saint Paul nous parle, que saint Paul cite à propos de la sainteté qui pratique qui doit être la nôtre, il dit « Nequis circumveniat in negotio fratrem suum » et que personne n'use de fraude dans les affaires vis-à-vis de son frère. Ça, on retombe dans un aspect grossier, mais on pourrait commenter longuement, mais je m'attacherai simplement à un aspect. La fraude et la malhonnêteté vis-à-vis des frères est véritablement une impureté morale qui souille l'âme plus que les péchés du corps. C'est-à-dire que quand on doit quelque chose à son frère et qu'on ne lui rembourse pas, qu'on ne lui rend pas, quand on fait venir, on emploie une entreprise catholique et qu'on ne la paye pas, ou qu'on ne veut pas la payer le juste prix, c'est une impureté morale et c'est interdit. Cela fait partie des interdits de la sainteté chrétienne. Nous ne devons pas léser notre frère dans le matériel. Alors et ce n'est pas à nous de dire ce n'est que du matériel. Ce n'est que du matériel, mais laissez votre frère faire usage saintement du juste salaire que vous lui aurez payé. Voyez-vous, mes très chers frères. Donc il y aurait bien des choses à dire, mais nous continuons. Saint Paul dit, par rapport à ces trois choses qui sont en quelque sorte une description négative de ce qu'est la sainteté chrétienne, il dit « Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Quoniam vindex est dominus deis omnibus. » Vindex est dominus. C'est plus fort en latin. Le Seigneur est le vengeur de ces choses. Mais en français, il faut traduire par une ellipse. Il tire vengeance de toutes ces choses. Le Seigneur se venge de toutes ces choses. La colère de Dieu tire vengeance de ces choses, et pour une raison bien simple, et c'est notre troisième et dernier point. Pourquoi notre Seigneur est-il en colère contre ses enfants, contre les chrétiens, qui se laissent aller à l'impureté, qui s'enorgueillissent vis-à-vis de leurs frères, et qui trompent leurs frères dans les rapports qu'ils ont avec eux? Avant de le dire directement, souvenons-nous de ces paroles, écoutons ces paroles du Père Céleste dans l'Évangile d'aujourd'hui. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Dieu a tant aimé le monde, dit Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La doctrine apostolique, qui règle nos mœurs, vient du verbe incarné, notre prédicateur, notre maître, notre magistère, notre précepteur. Il est non seulement notre précepteur dans le sens où c'est lui qui nous a enseigné des leçons de morale, mais il est notre rédempteur, notre réparateur, notre médiateur. C'est à lui et à lui seul que nous devons la grâce surnaturelle inespérée, quoique promise, inouïe, quoique annoncée. C'est à lui seul que nous devons cette grâce surnaturelle, sans laquelle aucune œuvre, fût-elle de la catégorie des bonnes œuvres, n'est capable de plaire à Dieu. Alors, mes très chers frères, pourquoi Dieu tire-t-il vengeance de ces choses ? Mes très chers frères, je le dirai sous forme d'exclamation, quelle ingratitude que de n'être pas saint. Vous savez, il y a une phrase de Léon Blois qui dit « Il n'y a qu'une seule tristesse ici-bas, c'est de ne pas être saint. » Et alors on trouve que c'est génial, que c'est très beau, etc. Sous un certain côté, on comprend grosso modo ce que ça signifie. Mais il y a quand même un fond d'orgueil dans cela. Et il y a un fond d'orgueil dans le sens où je suis triste, je suis déçu de moi-même, etc. Vous voyez, on n'est pas loin de l'orgueil absolu. En réalité, si nous voulions dire quelque chose de semblable, nous devrions dire « Il n'y a qu'une seule honte, il n'y a qu'une seule abjection. » Il n'y a qu'une seule manière d'être odieux et odieusement ingrat, c'est de ne pas être saint. Vous voyez, quand on le dit, celui qui prononce une telle maxime, une telle phrase, une telle affirmation, et c'est moi donc ça me concerne en premier, prononce sa propre condamnation. Il ne peut pas y avoir d'orgueil. Il ne peut pas y avoir la moindre ombre d'orgueil en disant cela, à moins de citer au cours d'un repas pour briller, etc. Bien entendu, mais il n'y a pas la moindre once d'orgueil qui peut s'immiscer dans ces choses-là, puisque nous condamnons notre propre ingratitude vis-à-vis de Dieu. Et nul ne peut se vanter d'être plein de gratitude, d'être reconnaissant envers Dieu. Voyez-vous ? Notre Seigneur, sur le calvaire, a dit « Tout est accompli ». Moïse et Élie, que nous voyons apparaître ici dans l'Évangile, s'entretenant avec notre Seigneur sur le mont Tabor, Moïse et Élie attestent sur le Tabor de la messianité de notre Seigneur. Il est véritablement l'agneau de Dieu annoncé par la loi et les prophètes. Ils sont apparus aux apôtres, ils les ont vus, ils les ont entendus s'entretenir de notre Seigneur et de sa passion, est-il dit dans un autre Évangile. Tout est accompli au calvaire, tout est accompli, dit notre Seigneur. Il n'a pas pu faire plus pour nous donner cette grâce surnaturelle qui nous donne d'être non plus des singes dégénérés, mes très chers frères, mais des enfants de Dieu. Et nous, voyez-vous, mes très chers frères, nous préférons rester esclaves de la partie la plus dégradée de notre chair. Alors que faire, mes très chers frères, pour ne pas rester dans la tristesse et l'abattement ? Mes très chers frères, l'Église a tout prévu, elle nous met même les bonnes paroles dans notre bouche. Nous devons dire de tout notre cœur ce cri qui constitue l'antienne de communion de tout à l'heure. Soyez très attentifs, entendez mon cri d'appel, soyez attentifs à la voix de ma prière, mon roi et mon Dieu, car c'est vous que j'implore, Seigneur. Crions à lui, mes très chers frères, crions à lui tout au long de ce Saint Carême, et il nous écoutera pour l'amour de notre Seigneur. Et c'est pour ça que nous prierons tout à l'heure dans la post-communion, Dieu Tout-Puissant. Donnez à ceux dont vous refaites les forces par vos sacrements de vous servir dignement par une vie qui vous plaise. Par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.